Une interpellation qui tourne au fiasco. Le commandant Charcot se lance alors dans une enquête dangereuse et éprouvante, en dehors de tout cadre légal. Une enquête où la science ignore l'éthique. Préparez-vous à basculer dans la faille et à vous confronter au pire de la nature humaine. La faille de Franck Tillier est disponible aux éditions Pocket.
Bonjour, c'est Dominique Rizet. Dans ce podcast en trois parties, nous allons vous raconter, Christophe Delay et moi, l'histoire du crime presque parfait de Georges Pierrou et Grit Bergman. Un épisode de Faites entrer l'accusé, écrit et réalisé par Norbert Le Troll, un document d'Anya Subschmann, rédactrice en chef Isabelle Clairac. Bonne écoute.
4 mois plus tard, les gendarmes ont enfin retrouvé la trace de Grit Bergman. La grande blonde, d'abord repartie en Allemagne après sa rupture avec Drost, est revenue en France par amour, mais dans un sud moins touristique. Elle s'est installée dans l'Aude, à Esperanza, avec le nouvel homme de sa vie.
L'adjudant-chef Didier Meunier l'a enfin retrouvée.
Elle a rencontré un peintre sur Narbonne. Elle s'est mariée avec lui et ils vivent ensemble. Je prends contact avec elle, je tombe sur son mari, qui m'explique qu'elle parle l'allemand.
Le mari s'appelle Georges Pierrut. Il est artiste peintre et il se propose de jouer les traducteurs. Grit, dit-il, a été la première surprise de recevoir la lettre testament de Drost et d'être choisie comme héritière. Elle a d'ailleurs immédiatement prévenu sa famille en Allemagne.
Je lui pose une question, bateau à la fin. Est-ce que vous êtes venu sur Aise le week-end du 24-25 ? Il me dit non, pas du tout. Voilà.
Bon, pourquoi pas. Mais le gendarme contacte quand même les opérateurs téléphoniques. Histoire de vérifier où étaient les portables du couple le fameux dimanche 25 septembre. Celui de Grit est muet. Le portable de Georges Pierrut, lui, s'active. Il quitte l'Aude. Fosse-sur-Mer, à 11h14, Flassan-sur-Issole, Mandelieu-la-Napoule. À 18h14 et à 18h21, le portable de Pierrut déclenche le relais de Aise. Ils ont donc menti.
Il s'est passé autre chose. Drost ne s'est peut-être pas suicidé.
Il est temps d'entendre l'explication du couple. Le 26 juin 2012, Grit Bergman et Georges Pierrut sont attendus dans les bureaux de la gendarmerie de Nice. Mais le 21 juin, 5 jours avant la date de convocation, l'officier de police judiciaire reçoit un courrier.
Ils peuvent pas venir, ils expliquent qu'ils n'ont pas d'argent. Cette lettre explique qu'ils ont rendez-vous à Pôle emploi, qu'ils peuvent pas se déplacer.
Tiens donc, pas assez d'argent pour aller jusqu'à Nice. Alors qu'au même moment, le peintre annonce sur son blog sa présence à Londres pour exposer ses toiles.
Sérieusement, on a le droit de ne pas se rendre à une convocation de la gendarmerie ?
Alors on est dans le cadre d'une enquête préliminaire, aucune information judiciaire n'a été ouverte, aucun juge d'instruction n'a été désigné. Et de toute façon, le couple ne peut être entendu que comme simple témoin. Et les gendarmes ne pourraient pas les placer en garde à vue.
Donc le couple n'a aucune obligation légale de répondre à la convocation des gendarmes. Mais entre nous, c'est pas très malin.
C'est même complètement stupide. On est en août 2012, un an après le suicide de Drost Notov. Et la justice va donner un sacré coup de main aux enquêteurs parce qu'une instruction va être ouverte pour meurtre. C'est la BR de Nice, la brigade de recherche de la gendarmerie, qui va reprendre tout au départ, avec, dans le viseur, le couple Pierrut Bergman.
Il y a quand même un petit problème, Dominique, parce que le téléphone de Georges Pierrut, je regarde, borne à Aise le dimanche 25. Mais le légiste, lui, date la mort au lendemain, au lundi 26. Donc, il y a un truc qui ne va pas.
Oui, ça ne colle pas. Le juge va demander un complément d'expertise. Conclusion, l'horloge recule un peu. La mort ne se situe plus 3 à 6 heures avant la découverte du corps, mais jusqu'à 12 heures avant la découverte du corps.
Mais 12 heures, 12 heures, ça nous laisse encore au 26. Mm-hmm. Donc au fond, ça ne change rien.
Oui, c'est vrai, mais le juge s'arrête pas là. Il demande d'autres expertises complémentaires. Regardez. D'abord, un examen anatomo-pathologique qui confirme que le décès est bien en lien avec une asphyxie mécanique compatible avec une pendaison. Ensuite, des analyses toxicologiques qui ne font état d'aucune molécule toxique, stupéfiante, volatile ou médicamenteuse.
Donc, Drosnotov n'a pas été drogué.
Mais le juge veut chercher encore et il demande des expertises ADN sur les morceaux de corde et sous les ongles de la victime. Qu'est-ce qu'on trouve ? On ne trouve que l'ADN de Drosnotov.
Donc, aucune de ces expertises ne fait avancer l'enquête pour meurtre.
Non, il y a même une nouvelle expertise graphologique qui confirme que la lettre testamentaire n'a pas été écrite par Drosnotov, mais l'expert écarte cette fois-ci également Grit comme auteur de cette lettre.
Mais si ce n'est pas un suicide, ceux qui ont pendu Drost, ils ont quand même hyper bien bossé, parce que ça veut dire qu'ils n'ont laissé aucune trace et qu'on n'est finalement pas loin du crime parfait.
Christophe, les enquêteurs ne vont pas se décourager.
Les majors Pascal Reynaud et Éric Grenier de la brigade de recherche de Nice reprennent l'enquête.
Ce dossier m'a intéressé tout de suite parce qu'on n'avait pas d'éléments matériels. Les dossiers que vous prenez, dont la mort date d'un an, voire plus, c'est toujours un challenge. C'est des dossiers qui sont longs, passionnants et difficiles à résoudre.
On a la conviction qu'effectivement le couple Bergman-Pierru a une implication. On ne sait pas laquelle. On est dans de l'hypothèse policière. On n'a aucun élément permettant de traduire quelqu'un devant une cour d'assises.
À moins que les deux suspects ne se trahissent, les gendarmes placent donc le couple sur écoute.
Georges Pierru est un garçon volubile, particulier.
C'est quelqu'un qui est très sympathique, qui est affable.
Il s'agissait d'un couple, on va dire, normal. C'était pas de gens violents ou de gens qui avaient des comportements anormaux. Un couple plutôt lambda.
Ils sont très complices et honnêtement, je pense qu'ils sont très amoureux, effectivement, l'un de l'autre. Il y a une relation assez fusionnelle.
Georges Pierru a rencontré Grit Bergman sur Facebook au cours de l'été 2010. C'est un vrai coup de foudre. L'Allemande s'est installée rapidement chez lui à Esperanza, près de Carcassonne, où il a ouvert une galerie. Georges est un artiste en quête de reconnaissance, alors Grit va faire sa promo sur les réseaux sociaux. Sur plusieurs sites d'art, elle fait la publicité du peintre, nom d'artiste Géo, et de ses nombreuses expositions dans le monde entier. Les biographies évoquent un peintre raffiné et innovant, un visionnaire artistique. Il a même un agent à Monaco. Elle s'appelle Susanna Linares. Elle organise à l'époque des vernissages originaux dans de très chics restaurants monégasques.
Je voudrais vous prendre 5 minutes pour vous présenter l'artiste de ce soir, qui c'est Géo. Il va parler un petit peu de lui et de ses œuvres.
J'ai pas mal d'inspiration, certains m'ont dit de Picasso.
Susanna Linares se souvient de Georges Pierru qu'elle connaît depuis longtemps.
Son père, dans le passé, c'était un ami de Picasso et qui, quand elle était petite, il allait souvent dans l'atelier, qu'il s'asseyait sous ses jambes pour le regarder peindre. Et donc, c'est de là que venait son inspiration. Georges Pierru, il était quelqu'un de très gentil, correct, sobre, calme, très posé. Il m'a beaucoup plu comme artiste parce qu'il faisait des œuvres un peu particulières avec des couleurs pastel, très 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 jolies. Il y avait des fantômes et des femmes, des silhouettes.
Pour moi, ce n'est pas mon style de peinture.
Visiblement, ce n'est pas des toiles de maître.
Les gendarmes sont, disons, sceptiques.
Il avait de la tchatche, monsieur Pierru. Il aurait vendu du sable à un bédouin, comme on dit. Hein. Il avait le bagou pour faire passer ses toiles pour ce qu'elles n'étaient peut-être pas forcément. Il a cet instinct d'escroc, le beau parleur, le gars sympathique qui passe bien, mais derrière, c'est du vent.
En réalité, Georges Pierru, c'est pas Picasso. Ancien intérimaire, il a écumé les petits boulots et depuis un accident de la route en 2005 et son divorce avec la mère de ses enfants, il est fauché et dépressif. Sa rencontre avec Grit l'a remis sur pied. Passionné d'art et de poésie, il s'est mis à peindre et il tente d'en faire un vrai métier, sans succès. Les biographies qui circulent sur le net sont mensongères. Pierru n'a jamais exposé à Londres, ni connu Picasso, et il fait lui-même son auto-promo sur les radios locales.
Bonjour à tous. Alors le bon plan cette semaine, c'est mon vernissage. Hein. Je m'appelle Georges Pierru. Voilà, donc je compte sur vous pour participer à cette œuvre caritative en acquérant une jolie peinture à des prix vraiment très compétitifs.
Mais ces toiles ne se vendent pas. Et le couple Pierru a bien du mal à joindre les deux bouts.
C'est quelqu'un qui vit des œuvres sociales et qui n'est pas dérangé par faire quelques petites magouilles de bas niveau pour gratter 3 francs 6 sous.
Georges Pierru avait été condamné pour divers faits, notamment escroquerie, faux en écriture. Il a entamé une procédure pour toucher l'allocation handicapé adulte avec des faux papiers. C'était leur seul revenu, c'était très peu.
Bref, l'héritage de Drosnotov sauverait les affaires du couple. Des centaines de milliers d'euros placés au secret sur un compte bancaire au Liechtenstein. Et dont Grit, son ancienne assistante, connaît forcément l'existence. Les enquêteurs ont aussi remarqué que certains tableaux de l'artiste portent des noms qui semblent étrangement liés à l'affaire. Flagrance d'aise. Ou celui-ci. Gritty's Flowerfield. Le champ de fleurs de Gritty. Gritty ? Comme le surnom utilisé au début du testament.
On s'est très vite aperçu qu'en fait, le Gritty était le surnom donné par Georges Pierru à Grit Bergman. Donc il s'est trahi, effectivement, en mettant ce surnom.
Les gendarmes doivent absolument entendre Georges Pierru et Grit Bergman. Cette fois, pas question qu'ils se défilent. Si le couple ne veut pas venir, ce sont les gendarmes qui vont aller les chercher. Rendez-vous est pris le 20 mars 2013, près de la maison du couple, pour une audition dans les locaux de la gendarmerie de Cuisat.
On décide de procéder à une audition, on va dire basique, sans aucune contradiction.
Une seule question intéresse pour l'instant les gendarmes. Oui ou non sont-ils venus à Aise le 25 septembre ? Et cette fois, c'est oui. Le couple admet qu'il est passé voir Drosnotov chez lui. Mais pas de chance. Ce jour-là, disent-ils, il n'était pas là. Alors ils sont repartis.
Vous faites 1000 km en voiture, alors que vous n'avez pas de gros moyens financiers. Vous vous assurez que la personne que vous venez voir est là. Ça semble de la pure logique.
Mais alors pourquoi vous nous avez menti quand vous nous avez dit que vous n'étiez jamais allé à Aise ? Les gendarmes leur posent la question.
On voit bien qu'ils nous mènent en bateau et que ça colle pas du tout. Mais on ne les contredit pas.
3 ans d'instruction et toujours rien. Il a fallu attendre des mois que la police de Kiel interroge les proches de Drost en Allemagne. des mois à traduire des centaines de pages, à étudier les comptes de sa société à Monaco, en Allemagne, en Angleterre, au Liechtenstein. L'enquête de routine autour d'un suicide est devenue un dossier criminel qui obsède la BR de Nice. Et pour sortir de l'ornière, les gendarmes vont donc tenter un coup de bluff.
On savait que c'était notre dernière carte. C'était comme un coup de poker.
Il faut vraiment qu'on arrive à le sortir, ce dossier, et à savoir ce qui s'est passé.
Officiellement, les gendarmes ont convoqué Grit Bergman et Georges Piru pour une nouvelle audition près de chez eux. Mais en fait, ils leur réservent une petite surprise.
Ils se retrouvent en garde à vue avec le motif de meurtre pour faire un électrochoc.
Il fallait qu'on les sorte de leur zone de confort, on va dire, et qu'on arrive à les déstabiliser psychologiquement.
Ils ne comprennent pas pourquoi ils sont placés en garde à vue, qu'ils n'ont rien fait, ils n'ont tué personne, etc.
Les gendarmes perquisitionnent leur appartement. Et dans les documents du couple, ils trouvent une liasse de feuilles blanches signées par Drosnotov, des blancs-seins confiés à Grit Bergman du temps où elle travaillait pour lui.
Il lui laissait quelquefois une dizaine de signatures sur une feuille. Et donc, on se dit, le testament, il a certainement été effectué comme ça.
Les gendarmes embarquent le couple et c'est le moment de sortir la deuxième surprise. Un petit voyage, 5 heures de route, direction la brigade de recherche de Nice.
Il faisait nuit.
Le visage de Georges et de Grit commence à changer.
On va faire un peu de cinéma. Chacun dans une voiture, allure très rapide, giro de ton tout le long. Le but, c'est de les déstabiliser.
L'interrogatoire de garde à vue des deux suspects commence au petit matin, dans deux bureaux séparés. Et c'est le même refrain. Drost, le 25 septembre, on ne l'a pas vu. Une chanson qui commence à agacer sérieusement les gendarmes.
Moi, je suis avec Grit Bergman. Je vais commencer un petit peu à l'interrompre, à la questionner. Et rapidement, elle commence à se braquer, à me dire, de toute façon, je ne répondrai plus aux questions.
Dans le bureau d'à côté, la pression monte aussi sur Georges Pierru.
On sent qu'il ne sait plus comment faire pour répondre à nos questions. Il dit le contraire de ce qu'il a dit avant, mais après il dit, oui, mais j'ai dit ça parce que, ah oui, mais je ne m'en rappelais plus. On voit qu'il commence un peu à se perdre un petit peu dans ses récits. Le problème, c'est que quand vous mentez, il est difficile de se rappeler de tout ce qu'on a dit à chaque fois.
Après une matinée de déni, tout à coup, Pierru bascule. Le coupable, c'est lui. Tout est de sa faute. Le dimanche 25 septembre, ils se sont bien rendus à Aise, chez Drosnotov. Grit voulait lui rembourser l'argent qu'elle lui devait. Georges est venu avec quelques toiles lui présenter son travail. Mais la conversation avec Drost a rapidement dégénéré.
Au cours de cette discussion, Drosnotov a apparemment un comportement indélicat envers Grit.
Je voyais que ce geste était désagréable pour elle, qu'elle le prenait mal. Je lui ai alors asséné une baffe au visage.
Il va s'en suivre une bagarre.
Je lui ai donné un coup d'épaule. C'est comme si vous défonciez une porte.
Drost tombe à l'angle d'un meuble et est décédé.
Il ne bougeait plus. J'ai essayé de le ranimer, mais il ne réagissait pas. La mort de Drost est un accident. Une dispute qui a mal tourné.
Georges Pierru, qui a quand même de l'imagination, se dit « Tiens, pourquoi on ne maquillerait pas ce décès en suicide ?»
Quand j'ai vu la trace au niveau du cou, j'ai pensé à une pendaison.
ce faire, avec beaucoup de chance, il a, sous la table basse du salon de Trosnetov, une corde.
Visiblement, Pierru essaie de protéger sa femme parce qu'il insiste. Grit n'a rien fait. Elle n'y est pour rien.
Georges Pierru pleure, semble déstabilisé, mais cela me semblait plus du cinéma, une mise en scène, que de réelles souffrances. Mais c'était déjà une bonne amorce, puisqu'il reconnaissait que Drosnotov était mort et qu'il était présent dans la maison. Donc, c'est un très bon début.
Un début d'aveu que les gendarmes comptent bien utiliser pour faire flancher Grit Bergman dans le bureau d'à côté.
Grit Bergman est assez stressé, assez perturbé. On la sent très, très émotive. Ce qui laisse penser d'ailleurs aux enquêteurs qu'elle est prête à craquer, elle est très fragile et qu'elle ne supportera pas la pression beaucoup plus longtemps.
Et en effet, au petit matin, elle craque.
En fait, elle avait une haine contre Monsieur Drost parce que, soi-disant, il aurait utilisé son image sur Internet. Elle avait des vieux griefs dont on ne comprend pas bien le sens. L'idée lui est venue de se venger, de tuer Drosnotov. Et là, on va passer sur un autre stade où là, en fait, elle va nous décrire un assassinat prémédité de relativement longue date, préparé avec une minutie assez remarquable.
Ils ont vu que, par exemple, un coup de barre de fer au niveau de la trachée permettait de tuer quelqu'un. Et comme la trace, elle est au niveau du cou, et que si on met une corde, ça peut être caché. C'est déjà du travail de penser à ça. Ça se fait pas en 5 minutes. On ne trouve pas une hypothèse comme ça facilement.
C'est Georges, explique Grit, qui est allé acheter le matériel 10 jours avant le rendez-vous avec Drost.
On va récupérer les factures et on va constater qu'effectivement, quelques jours auparavant, ils ont acheté une corde, une barre de fer.
Donc la préméditation est plus qu'évidente.
Dernière étape, la rédaction du testament. Ils l'ont écrit chez eux, 4 jours avant d'aller à Hez sur les fameux blancs-seins que Drost avait laissés à Grit.
Comme elle se doute que son écriture risque d'être connue, c'est son compagnon qui va la rédiger.
Le dimanche 25 septembre, tout est prêt. Le couple part en direction de la Côte d'Azur pour son rendez-vous macabre avec Drosnotov. Ils ne laissent rien au hasard. Et pour ne pas être repérés, leur voiture est équipée de fausses plaques d'immatriculation.
Ils payent l'essence, l'autoroute, tout en espèces, pour ne pas laisser de traces, et ils se présentent à Hez.
Grit raconte que la conversation s'est engagée avec Drost. Elle connaît bien la maison. C'est donc elle qui fait du café pendant que son mari présente l'étoile à l'entrepreneur.
Jusqu'au moment où Georges Pierru décide de passer à l'acte. Georges Pierru frappe au niveau du larynx Monsieur Notov. Il est à genoux sur lui et elle va, de mémoire, nous mimer les coups de barre de fer sur la gorge. En gros, pour le finir. Quand elle nous décrit cette scène, elle est dedans. Elle est dedans à tel point qu'elle va en vomir. Elle va vomir 3 fois de suite dans mon bureau lorsqu'elle décrit la scène. Là, il n'y a pas de cinéma. On est dans le vrai.
On sent qu'elle avait besoin que ça sorte. Elle n'arrivait plus à vivre avec ça. Elle avait pris 38 kilos. cette culpabilité et ça a été le moment là de se lâcher.
Grit Bergman se vide, littéralement. Tous les détails de l'assassinat y passent. Les enquêteurs vont prévenir leurs collègues. C'est bon les gars, elle a tout balancé. Dans le bureau voisin, Georges Pirou est maintenant au pied du mur.
Vous venez d'écouter le deuxième épisode de Faites entrer l'accusé consacré à l'histoire du crime presque parfait de Georges Pirou et Grit Bergman. Retrouvez la suite de l'affaire dans l'épisode 3. Bonjour, c'est Dominique Rizet. Une poignée de secondes, voilà tout ce qu'il faut pour qu'une vie bascule. Juste une poignée de secondes. Un sursaut, un instant où le destin bifurque dans une direction ou dans l'autre.
Sur le coup, je pensais pas qu'il était mort parce que je voyais pas de sang, on voyait rien quoi en fait. Sébastien s'est jeté sur son père.
L'affaire Grégory, l'affaire Daval, l'affaire Cahuzac... Vous les connaissez toutes, ça fait 40 ans que je vous raconte ces destins brisés. Aujourd'hui, dans l'instant où, découvrez les confessions de ceux qui sont au cœur de ces affaires. Ils me racontent et vous racontent ce qu'ils ne pourront jamais oublier.
L'instant où, un podcast BFM TV raconté par Dominique Rizet.